Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans notre émission La classe 974. Vous êtes avec moi Alexis et aujourd'hui je serai votre professeur sur les ondes. Vous êtes sur Radio Soleil 87.4 sur Saint-Paul-le-Port-la-Possession, sur Radio Soleil bien sûr, www.radiosoleil.re. Vous êtes également sur RIL FM, dans le nord sur 96.2, dans l'ouest sur 97.0. Dans le sud-ouest sur 98.9 et 97.1, dans le grand sud sur 99.6, dans l'est sur 98.1, en application sur RIL FM, iPhone et smartphone. Vous êtes également sur Sunlight FM, à Saint-Philippe-Basse-Vallée sur 95.5, à Ravinongo-Tremblay sur 105.2, à Vincendeau-Saint-Joseph, Petite-Île-à-Grand-Bois sur 92.3. Voilà, donc bonjour les marmailles, donc aujourd'hui effectivement nous sommes dans une classe de quatrième, on va aller en histoire, en quatrième, vous allez bien tout le monde va bien, on a tous les maris qui sont là, on a tous les marmailles là, ça soit effectivement dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est, on est content de vous voir. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est le vote de 1815 à 1870, donc on va voir comment évoluent effectivement les élections. Le mode d'élection durant cette période. Donc, je rappelle, la date de 1815, c'est la date de Waterloo. Waterloo, effectivement, où Napoléon va perdre, effectivement, la bataille de Waterloo et va être ensuite emprisonné à Sainte-Hélène. On va rétablir les différentes monarchies, les différents gouvernements. On peut dire tout simplement que après la défaite de Waterloo, les différents États d'Europe se retrouvent au congrès de Vienne en 1815 et ils décident de revenir à peu près comme avant au niveau des frontières, au niveau des modes de gouvernement, je veux dire à peu près. Mais on va s'intéresser dans ce qui se passe en France. En France, donc en France, la monarchie elle est restaurée. Donc elle est restaurée, donc Louis XVI, comme j'avais dit, n'est pas le dernier roi de France. Il y a une monarchie après, en 1814. 1814, je rappelle, ensuite Napoléon est arrivé, est revenu, et ensuite, effectivement, il a perdu la bataille, il est reparti. Donc cette monarchie est restaurée, et il s'agit d'une monarchie constitutionnelle. Une monarchie avec une constitution, les pouvoirs du roi sont limités. C'est Louis XVIII, le frère de Louis XVI, qui devient roi de France. Donc on avait vu effectivement Louis XVII, je ne reviens pas dessus, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette qui était devenu roi et qui était sans avoir été sacré et autre et qui était mort effectivement dans la prison du Temple. Donc voilà pour là-dessus. Donc les pouvoirs du roi sont limités, il y a une charte et on a une monarchie constitutionnelle. Louis XVIII devient roi de France et ses pouvoirs sont limités. Donc on a pour le suffrage à l'époque, le mode d'élection bien sûr, hein, qu'on parle d'une chambre, c'est une assemblée. Hein, donc on a une chambre des députés qui est élue au suffrage censitaire. Suffrage censitaire, il faut payer un cens, il faut payer un impôt. Donc ça veut dire que seuls les plus riches ont le droit de voter. Donc on revient au suffrage censitaire qui était mis en place avant. Donc ce régime est assez mal accepté et il va poser problème en juillet 1830. Charles X, frère de Louis XVIII à la mort de Louis XVIII, c'est Charles X qui devient roi de France et Charles X veut rétablir la monarchie absolue. En plus, le mode d'élection ne convient pas aux Français. Donc en juillet 1830, les Parisiens se révoltent et le roi est obligé de partir, quitte le pouvoir. Il est remplacé par un cousin, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe Ier, donc là on va passer effectivement à la famille des Orléans et non plus à la famille des Bourbons, c'est une histoire de famille, hein. Louis-Philippe Ier devient roi des Français. Un roi qui est beaucoup plus libéral, qui veut effectivement, qui donne beaucoup plus de liberté. Bien sûr les pouvoirs du roi sont limités. Donc on appelle effectivement cette période la monarchie de juillet, elle dure entre 1830 et 1848. Donc, on ne va pas changer de mode d'élection pendant la monarchie de juillet, mais le nombre d'électeurs va augmenter, un peu moins de 250 000 à peu près, 200 000 en gros, on verra pas, en gros. Donc, le nombre d'électeurs a augmenté, on est à peu près à moins de 250 000, mais le suffrage reste censitaire, seuls les plus riches votent. Donc, ce qui pose problème, puisque les Français veulent tous voter depuis cette Révolution française, où ils veulent avoir le pouvoir. Donc, à partir de 1847, il y a des mouvements qui sont dans tout le pays, principalement à Paris, pour le droit de vote à tout le monde, c'est-à-dire le suffrage universel. Bien sûr, suffrage universel masculin, l'idée que les femmes votent, pour les femmes, effectivement, elles le veulent, mais pour la majorité des hommes, c'est même pas la peine pour cette époque. Et depuis 1789, ils refusent effectivement que les femmes accèdent au mode d'élection. Donc, ils se battent pour le suffrage universel, bien sûr, masculin. Donc, le 22 au 24 février 1848, les Parisiens, de nouveau, se soulèvent contre, effectivement, la monarchie de Juillet. Le roi est obligé d'abdiquer. Louis-Philippe Ier abdique et on a effectivement abdiqué, ça veut dire qu'il renonce au pouvoir. Il renonce au pouvoir et la République est proclamée. La République est proclamée, donc comme c'est la deuxième fois qu'elle est proclamée, on passe à la deuxième République, à la seconde République. Un gouvernement provisoire est mis en place, un gouvernement en attendant, un gouvernement républicain est mis en place et cette la République va durer de 1848 jusqu'en 1851. Je rappelle qu'on avait déjà vu en 1848, sur le programme de troisième, excusez-moi. En 1848, il y a deux choses qui vont être intéressantes. C'est donc le mode de suffrage qui nous intéresse dans cette leçon, le suffrage universel masculin. Effectivement, et on a le 5 mars 1848 le suffrage universel masculin. Ça veut dire que tous les Français, je mets Français, pas Françaises, tous les hommes, effectivement, citoyens en France, peuvent voter du moment qu'ils sont la majorité. Deuxième chose aussi qui n'intéresse pas notre sujet, mais qui intéresse notre île, en 1848, effectivement, c'est l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Décision qui sera appliquée à La Réunion le 20 décembre 1848. Donc voilà, donc c'est deux choses importantes. En ce qui nous intéresse, effectivement, les deux, bien sûr, sont importantes. Donc on passe quasiment, on avait dit on était à moins de 250 000 électeurs, donc, et on passe cette fois-ci à plus de 9 millions de personnes qui ont le droit de voter. Donc c'est suffrage universel masculin. Tous les hommes en âge de voter peuvent voter. Le gouvernement va rétablir des libertés. La liberté, effectivement, les libertés fondamentales, programme de 4e de MC, je vous rappelle, les libertés fondamentales. On a la liberté de la presse, donc la liberté de la presse qui était contrôlée. De nouveau, effectivement, les journaux sont libres, peuvent écrire ce qu'ils veulent, peuvent publier ce qu'ils veulent. Liberté de réunion, on a le droit de se réunir à plusieurs personnes et discuter, bien sûr. Liberté d'association, puisqu'on peut créer des associations, bien sûr, toutes les associations de malfaiteurs, machin, n'a pas changé, tout ça l'interdit, mais on peut de nouveau faire des associations, des réunions, associations politiques ou autres, des discussions. Donc, on rétablit effectivement ces grandes libertés fondamentales qui sont, je rappelle, jusqu'à aujourd'hui, nécessaires à la démocratie. Donc, les gens se sont battus pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Bien sûr, ça va de soi. Derrière cette liberté d'expression, la liberté de penser, bien sûr, avoir ses propres idées politiques et autres. La liberté de réunion, pouvoir s'associer. Et la liberté la liberté de s'associer, pouvoir effectivement créer des partis politiques, des associations politiques, religieuses ou non religieuses ou autres. Ce qui va permettre effectivement de favoriser les débats pour les élections. De mieux se renseigner également, puisque la presse, je rentre pas dans un débat aujourd'hui, la presse va pouvoir effectivement donner un point de vue, montrer les différents candidats, et chacun va pouvoir effectivement se renseigner. Certains me diront « Ouh là 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 !» mais tout le monde ne sait pas encore lire à l'époque. Voilà, donc on est toujours dans la même chose. Effectivement, c'est ce que les gens ne savent pas tous lire, mais savent comprendre et les caricatures. Ils savent, qu'à le dire, déchiffrer, lire des caricatures. Les gens parlent, les gens discutent. On avait vu effectivement qu'au XVIIIe siècle apparaissait l'opinion publique, la discussion où les gens donnent leur avis effectivement sur certaines choses et ce qui permet le débat politique. Bien sûr, à condition de bien se renseigner. Donc cette leçon tombe bien, puisque les périodes des élections, tout ça ou autre, je ne rentre pas non plus dans un autre débat pour l'instant, même pas pour l'instant, tout le temps. Donc pour aller voter, il faut se renseigner. il faut effectivement regarder les différents programmes des différentes personnes ou des différents groupes qui proposent, qui font des propositions, et il faut voter pour le groupe qui correspond le mieux à vos idées, en sachant que peut-être il y a deux, trois idées qui ne sont pas les vôtres, mais il faut que sur le sens même, la base et les idées essentielles, vous soyez d'accord et qu'on vote effectivement pour des idées ou pour une personne ou des personnes qui représentent vos idées. Mais ils ne votent pas pour ce que la tête les jolie, la tête les vilains, les machins, tout ça. Mais exagère. Ok, bon, je reviens. Donc, on est passé effectivement du suffrage censitaire au suffrage universel masculin. Donc, tout le monde a compris que le suffrage censitaire, c'est un suffrage censitaire masculin. Hein, parce que dans le mode censitaire, effectivement, seuls les hommes votaient. Voilà. Donc, ben, on va avoir effectivement des premières élections. En avril 1848, on a une assemblée constituante. Une assemblée constituante, je rappelle les cours, hein, une assemblée qui a pour objectif de mettre en place une constitution. La constitution, c'est les textes, effectivement, c'est le texte qui permet de répartir les différents pouvoirs à l'intérieur d'un pays. Donc, ça sera la constitution de la Seconde République. Donc, on aura les élections présidentielles, la première élection présidentielle qui est organisée en 1848. Bien sûr, on n'est pas dans le mode où tout le monde vote pour le président. Et surprise, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui devient président de la République. Louis-Napoléon Bonaparte, vous vous rappelez les enfants, qui c'était ? Vous avez le tableau, effectivement, de David, le sacre de Napoléon Ier. Le sacre de Napoléon Ier est grand tableau, magnifique. Hein, et on voit effectivement un petit enfant collé à sa maman, un petit garçon collé à sa maman, et c'est ce neveu de Napoléon Ier. Donc, il est devenu un homme, désormais, à l'époque qui nous intéresse, et il devient effectivement le président, je veux dire le premier, le seul d'ailleurs, le président de la République, de la Seconde République. Donc, on a donc un suffrage qui est universel et masculin, avec quelqu'un qui devient président de la République, qui est pour les idées de la République, qui est pour les idées, qui est aussi pour les idées de son tonton. Donc, on a, on va dire, la même, j'allais dire un mot compliqué, les enfants, dichotomie. On a la même opposition dans sa tête, ou je sais pas, c'est qu'on a quelqu'un qui est pour la liberté, qui est pour les idées de la Révolution française, mais qui en même temps aime bien le pouvoir et voudrait garder ce pouvoir. Donc là, il est content, il est devenu président de la République. En 1850, il y a un changement. Donc, on se dit, le peuple va voter, ça va poser problème. On se méfie toujours, le 19e siècle, depuis la Révolution française, hein, je rappelle, c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. Et depuis cette Révolution française, on se méfie toujours du vote des peuples, du vote du peuple, du petit peuple. Et là, en 1850, craignant que de perdre les élections, craignant qu'il y ait des soucis, le gouvernement rétablit le suffrage censitaire. Donc, de nouveau, on retire le droit de vote au peuple, au petit peuple, seuls les plus riches votent. Le suffrage censitaire est rétabli. Louis-Napoléon Bonaparte est donc président de la République. Il est président de la République, mais oui, ben, il ne peut pas se représenter. Et il veut rester. Donc ça pose un problème. Il veut rester au pouvoir et ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde. Qu'est-ce qu'il a fait, mon tonton ? Mon tonton, il a fait, j'écoute Marmaille, comment il a pris le pouvoir, Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte ? Oui, merci. Il a fait un coup d'État. C'est prendre le pouvoir par la force. Donc, le 2 décembre 1851, comme par hasard, Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État. Il fait un coup d'État, donc le président de la République fait un coup d'État et il prend le pouvoir. Il fait un coup d'État avec l'armée, bien sûr, il prend le pouvoir. Et tout de suite, il va organiser un plébiscite. Un plébiscite, c'est comme un référendum. On répond par oui ou par non, et la population décide de voter oui ou non. Donc, il fait un plébiscite au suffrage universel masculin, et pour légitimer les faits, effectivement, pour se légitimer, comme a fait son oncle, pour que les Français, effectivement, acceptent qu'ils deviennent, qu'ils prennent le pouvoir. Donc, les Français l'acceptent, puisque là, on avait un gouvernement qui était pour le suffrage censitaire. Bon, lui, Napoléon Bonaparte était aussi derrière, je dis rien. Et les Français, effectivement, plébiscite, effectivement, Louis-Napoléon Bonaparte garde ce pouvoir. Et il rétablit, effectivement, comme son tonton, il veut copier son tonton, il va rétablir la monarchie. il va rétablir la monarchie. Donc on repasse de nouveau, c'est la fin de la République, on rétablit la monarchie, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rétablit le Second Empire. Le Premier Empire, c'est avec Napoléon Ier, et le Second Empire, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui devient empereur. Empereur, et il prend le nom de Napoléon III. On va dire, monsieur Napoléon III, mais où est passé le deuxième? Il y a eu Napoléon Ier, il passe directement à Napoléon III, il ne gagne pas compter. Oui, je ne gagne pas compter, je ne sais pas compter, oui, mais il ne gagne pas compter. Enfin, mélange, la maillage, français, créole, choisi un peu, oui, d'accord, je choisis. Donc, Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Napoléon II n'a jamais régné. C'était le fils de Napoléon Ier, qu'on appelait l'Aiglon, hein, qui était chétif, maladif, etc. Et qui n'a jamais régné. Et Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Prend le pouvoir sous le nom de Napoléon III. Et il rétablit donc l'Empire en 1852. Donc ça veut dire qu'on est passé à la monarchie constitutionnelle. On est passé à la Seconde République et de nouveau, rapidement, on repasse à une monarchie avec l'Empire. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant tout le 19e siècle, de 1814 jusqu'en 1870, et à peu près, je dirais même après, on verra ça dans la prochaine leçon, la France, les Français vont hésiter entre la monarchie et la République. Et la majorité des Français sont plus favorables pour la monarchie que pour la République pendant cette période. Ils hésitent vraiment. Donc, ce qui explique, on peut dire, mais pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte, il n'y a pas eu de soucis et autres? Parce que les Français sont hésitants, cette monarchie, cette République. Une monarchie qui peut effectivement rétablir de l'ordre. Et de l'autre côté, une République où on se sent peut-être en insécurité. Donc, les Français hésitent. Et ils ont l'image de Napoléon Ier qui a rétabli l'ordre. On a toujours cette image, hein, Napoléon Ier qui a rétabli l'ordre, Napoléon Ier qui a rétabli la paix, Napoléon Ier qui était à la conquête des autres États. Et on a ici, effectivement, la famille, le sang de Napoléon Ier qui est présent là et qui est capable de rétablir tout ça. Donc, l'imagerie, on va dire collective, hein, joue énormément. La mémoire collective est importante. Et ce qui explique que Napoléon III prend le pouvoir. Donc Napoléon III est au pouvoir. Il va mettre en place une chambre des députés. Une chambre des députés, qu'on appelle le corps législatif, une chambre des députés, mais qui est élu au suffrage universel. Dire suffrage universel, dire bon, on est bon. Bien sûr, suffrage universel masculin, hein, bien sûr. Elle dit, ben, elle est bon alors. Sauf que il n'a quasiment pas de pouvoir. Il a très très peu de pouvoir. Donc on a une chambre des députés qui valide à peu près ce que décide le pouvoir, mais qui n'a pas de pouvoir de décision. Donc, oui, ça sert quasiment à rien. Certains me disent, effectivement, voilà. Et surtout, les élections sont encadrées. Les élections sont encadrées. La liberté de la presse, va être limitée. On a de nouveau la censure. Hein. La censure, c'est un contrôle, effectivement, de la presse. Donc, on a des candidats qui sont des candidats officiels, des candidats qui sont nommés par le pouvoir et qui sont vraiment avantagés par rapport aux autres et qui, effectivement, ont plus de mal à se représenter. Donc, on a un pouvoir qui est fort, un pouvoir qui est présent et une monarchie qui contrôle plus ou moins, effectivement, la situation. À la fin, on veut dire effectivement un peu avant 1870, Napoléon III va rétablir une certaine liberté, un peu plus de liberté, parce qu'il craint moins pour son pouvoir, donc va rétablir certaines libertés, comme la liberté de la presse et autres, effectivement, qui sera beaucoup moins contrôlée. Donc voilà, est-ce qu'il va favoriser tout ce qui est campagne électorale ou autre? Voilà pour après, je vais m'arrêter là, puisque on a bien sûr l'un des grands défenseurs, effectivement, du suffrage universel, hein, c'est Victor Hugo. Comment j'ai pu oublier de parler de Victor Hugo? Bien sûr, Victor Hugo. On a aussi, j'ai oublié, si on veut mettre ça un peu avec le français, hein, on a effectivement Lamartine, le poète Lamartine, avec le gouvernement provisoire de la Seconde République, qui proclame la Seconde République, si je viens si je vais un petit peu avant ce que je viens de dire. Et là, si je commence, ça veut dire qu'il est temps que je rende l'antenne. Et bien sûr, on a Victor Hugo, qui est le grand défenseur, effectivement, du suffrage universel. Donc voilà. Donc la leçon d'aujourd'hui portait sur le vote de 1815 à 1870. Donc deux choses à retenir. Que pendant cette période, au niveau du régime politique, les Français hésitent entre la monarchie et la République. On a une alternance entre la monarchie et la République. Et cette hésitation va durer, je veux dire en gros, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour simplifier, hein. Donc jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a une hésitation entre la monarchie et la République. Et quand je m'avance un petit peu, quand la Troisième République sera proclamée, elle sera proclamée une condition, la majorité des Français sont plus pour la monarchie que pour la République. Donc voilà pour la situation. Donc on a une alternance entre la monarchie et la République. Et à la fin de cette leçon d'aujourd'hui qui nous intéresse, on est passé de nouveau à la monarchie avec le Second Empire, avec effectivement Louis-Napoléon Bonaparte qui a fait un coup d'État et qui prend le pouvoir sous le nom de Napoléon III. Deuxième chose également à retenir, c'est l'alternance entre le suffrage censitaire et le suffrage universel. Bien sûr, vous avez compris, hein, la monarchie préfère le suffrage censitaire, où seul les plus riches vont voter. Souvent, effectivement, la bourgeoisie et, on va dire, la nouvelle noblesse qui a plus quasiment des privilèges, hein, cette nouvelle noblesse de cour, de parade, si vous voulez, et la République est plus pour le suffrage universel. Donc, à l'époque, on se bat pour obtenir le suffrage universel, la population se bat pour obtenir le droit de vote pour pouvoir aller voter et savoir effectivement pour qui va les diriger. Voilà la situation en 1870. Donc la leçon d'aujourd'hui est terminée. Donc on se verra la prochaine fois pour la suite de ce qui se passe en France après 1870, les enfants. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien réveillés, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous faisons des gros bisous, bien sûr. Mais bien sûr, avant de dire au revoir, on va faire des remerciements. C'est important ces remerciements parce que sans ces personnes autour, sans ces personnes derrière nous, on ne peut pas faire l'émission correctement et programmer cette émission. Même si je se retrouve seul au studio, derrière, effectivement, à la maison, en télétravail, où il y a quasiment beaucoup de monde. Non, pas énormément de ça, bien sûr. Donc, un grand merci à Simi, qui fait vraiment un gros travail sur Facebook, un gros travail de programmation. Et merci encore pour la petite chronologie, pour tout ça, ce qu'elle met sur Facebook, pour ceux qui regardent un petit peu avant, pour pouvoir suivre tout ça. Merci à Laurent pour la programmation sur Radio Soleil, sur le site Radio Soleil, les podcasts. Et surtout, un grand merci aussi à Anne Leclerc, notre documentaliste du Collège Jules Solès, qui met ses différents podcasts, effectivement, sur le site du Collège Jules Solès. Merci à Yann de RIL de nous accompagner dans cette histoire, pour pouvoir diffuser tout ça, effectivement, sur toute l'île. Merci merci à Félix de Sunlight pour effectivement les diffusions sur Sunlight FM. Merci au principal adjoint, merci au principal Daniel Gauvin. Un grand merci effectivement à tous ceux qui travaillent dans les différents collèges en ce moment pour accueillir les élèves. Un grand merci, que ce soit le personnel surveillant, que ce soit effectivement ce qu'on appelle les AED, que ce soit les personnels effectivement ATOS, les personnes de nettoyage, les personnes de la cuisine. Sans ces personnes, on ne pourrait pas fonctionner. Les CPE, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui font en sorte, effectivement, que tout le collège puisse fonctionner et accueillir les enfants dans de bonnes conditions avec, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je rappelle que de faire attention aux gestes barrières, vous devez, pour mettre pas qu'un barrière devant vous, etc. Oui, je sais, bon, les blagues sont nulles. Moi, j'essaie de me soigner, mais j'ai du mal. Oui, on dirait, nous manque à lire, donc c'est pour ça qu'il raconte. Oui, d'accord, bon, je reconnais, donc vous manquez les enfants. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis effectivement, la semaine prochaine pour le cours de 4e et à demain pour le cours de 5e. Bonne écoute à vous sur nos ondes respectives.